Livre septième, l'absolution. Deuxième forme, le serment. Chapitre 1. À serment, serment et demi. Qu'est-ce que c'est que Louis Bonaparte? C'est le parjure vivant. C'est la restriction mentale incarnée. C'est la félonie en chair et en os. C'est le faux serment coiffé d'un chapeau de général et se faisant appeler Monseigneur. Eh bien, qu'est-ce qu'il demande à la France, cet homme guet-apens? Un serment. Un serment! Certes, après la journée du 20 décembre 1848 et la journée du 2 décembre 1851, après les représentants inviolables arrêtés et traqués, après la République confisquée, après le coup d'État, on devait s'attendre de la part de ce malfaiteur à un éclat de rire cynique et honnête à l'endroit du serment, et que ce Sbrigani dirait à la France « Tiens, c'est vrai, j'avais donné ma parole d'honneur. C'est très drôle, ne parlons plus de ces bêtises-là. » Non pas, il veut un serment. Ainsi, maire, gendarme, juge, espion, préfet, généraux, sergent de ville, garde champêtre, commissaire de police, magistrat, fonctionnaire, sénateur, conseiller d'État, législateur, commis, troupeau. C'est dit, il le veut. Cette idée lui a passé par la tête. Il l'entend ainsi, c'est son plaisir. Venez, hâtez-vous, défilez, vous dans un greffe, vous dans un prétoire, vous sous l'œil de votre brigadier, vous chez le ministre, vous sénateur aux Tuileries dans le salon des maréchaux, vous mouchard à la préfecture de police, vous premiers présidents et procureurs généraux dans son antichambre. Accourez en carrosse, à pied, à cheval, en robe, en écharpe, en costume, en uniforme, drapé, doré, pailleté, brodé, emplumé, l'épée au côté, la toque au front, le rabat au cou, la ceinture au ventre. Arrivez, les uns devant le buste de plâtre, les autres devant l'homme même. C'est bien, vous voilà, vous y êtes tous, personne ne manque. Regardez-le bien en face. Recueillez-vous, fouillez dans votre conscience, dans votre loyauté, dans votre pudeur, dans votre religion. Ôtez votre gant, levez la main, et prêtez serment à son parjure, et jurez fidélité à sa trahison. Est-ce fait? Oui. Ah, quelle farce infâme! Donc Louis Bonaparte prend le serment au sérieux. Vrai, il croit à ma parole, à la tienne, à la vôtre, à la nôtre, à la leur. Il croit à la parole de tout le monde, excepté à la sienne. Il exige qu'autour de lui, on jure, et il ordonne qu'on soit loyal. Il plaît à Messaline de s'entourer de pucelles. À merveille, il veut qu'on ait de l'honneur. Vous l'aurez pour entendu, saint Arnaud, et vous vous le tiendrez pour dit, Maupas. Allons au fond des choses, pourtant. Il y a serment et serment. Le serment que librement, solennellement, à la face de Dieu et des hommes, après avoir reçu un mandat de confiance de 6 millions de citoyens, on prête, en pleine assemblée nationale, à la constitution de son pays, à la loi, au droit, à la nation, au peuple, à la France. Ce n'est rien, cela n'engage pas. On peut s'en jouer et en rire et le déchirer un beau matin du talon de sa botte. Mais le serment qu'on prête sous le canon, sous le sabre, sous l'œil de la police, pour garder l'emploi qui vous fait vivre, pour conserver le grade qui est votre propriété, le serment que pour sauver son pain et le pain de ses enfants, on prête à un fourbe, à un rebelle, au violateur des lois, au meurtrier de la République, à un relapse de toutes les justices, à l'homme qui lui-même a brisé son serment. Oh, ce serment-là est sacré, ne plaisantons pas. Le serment qu'on prête au 2 décembre, neveu du 18 Brumaire, est sacro-saint. Ce que j'en admire, c'est l'ineptie. Recevoir comme argent comptant et espèce sonnante tous ces jureaux de la plèbe officielle. Ne pas même songer qu'on a défait tous les scrupules et qu'il ne saurait y avoir là une seule parole de bon aloi. On est prince et on est traître. Donner l'exemple au sommet de l'État et s'imaginer qu'il ne sera pas suivi. Semer le plomb et se figurer qu'on récoltera de l'or. Ne pas même s'apercevoir que toutes les consciences se modèlent en pareil cas sur la conscience d'en haut. Et que le faux serment du prince fait tous les serments fausse monnaie. Chapitre 2. Différence des prix. Et puis, à qui demande-t-on des serments ? À ce préfet ? Il a trahi l'État. À ce général ? Il a trahi le drapeau. À ce magistrat ? Il a trahi la loi. À tous ces fonctionnaires ? Ils ont trahi la République. Chose curieuse et qui fait rêver le philosophe, que ce tas de traîtres d'où sort ce tas de serments. Donc, insistons sur cette beauté du 2 décembre. Monsieur Bonaparte, Louis, croit au serment des gens. Il croit au serment qu'on lui prête à lui. Quand Monsieur Rouher ôte son gant et dit « je le jure », quand Monsieur Suin ôte son gant et dit « je le jure », quand Monsieur Trollon met la main sur la poitrine à l'endroit où est le troisième bouton des sénateurs et le cœur des autres hommes et dit « je le jure ». Monsieur Bonaparte se sent les larmes aux yeux, additionne, ému, toutes ses loyautés, et contemple ses êtres avec attendrissement. Il se confie, il croit, ô abîme de candeur. En vérité, l'innocence des coquins cause parfois des éblouissements à l'honnête homme. Une chose toutefois étonne l'observateur bienveillant et le fâche un peu. C'est la façon capricieuse et disproportionnée dont les serments sont payés. C'est l'inégalité des prix que M. Bonaparte met à cette marchandise. Par exemple, M. Vidocq, s'il était encore chef du service de sûreté, aurait 6 000 francs de gages par an. M. Baroche en a 80 000. Il suit de là que le serment de M. Vidocq ne lui rapporterait par jour que 16 francs 66 centimes, tandis que le serment de M. Baroche rapporte par jour à M. Baroche 222 francs 22 centimes. Ceci est évidemment injuste. Pourquoi cette différence ? Un serment est un serment. Un serment se compose d'un gant ôté et de 8 lettres. Qu'est-ce que le serment de M. Baroche a de plus que le serment de M. Vidocq ? Vous me direz que cela tient à la diversité des fonctions, que M. Baroche préside le Conseil d'État et que M. Vidocq ne serait que chef du service de sûreté. Je réponds que ce sont là des hasards, que M. Baroche excellerait probablement à diriger le service de sûreté, et que M. Vidocq pourrait fort bien être président du Conseil d'État. Ce n'est pas là une raison. Y a-t-il donc des qualités diverses de serment ? Est-ce comme pour les messes ? Y a-t-il là aussi les messes à 40 sous et les messes à 10 sous, lesquelles, comme disait ce curé, ne sont que de la gnognotte ? A-t-on du serment pour son argent ? Y a-t-il, dans cette denrée du serment, du superfin, de l'extra-fin, du fin et du demi-fin ? Les uns sont-ils mieux conditionnés que les autres ? Sont-ils plus solides, moins mêlés d'étoupe et de coton, meilleur teint ? Y a-t-il les serments tout neufs et qui n'ont pas servi ? Les serments usés aux genoux ? Les serments rapiécés ? Les serments éculés ? Y a-t-il du choix, enfin ? Qu'on nous le dise. La chose en vaut la peine. C'est nous qui payons. Cette observation faite dans l'intérêt des contribuables, je demande pardon à M. Vidocq de m'être servi de son nom. Je reconnais que je n'en avais pas le droit. Au fait, M. Vidocq eut peut-être refusé le serment. Chapitre 3. Serment des lettrés et des savants. Détail précieux. M. Bonaparte voulait qu'Arago jurât. Sachez cela, l'astronomie doit prêter serment. Dans un État bien réglé, comme la France ou la Chine, tout est fonction, même la science. Le mandarin de l'Institut relève du mandarin de la police. La grande lunette à pied paralactique doit Thomas Lige à M. Bonaparte. Un astronome est une espèce de sergent de ville du ciel. L'observatoire est une guérite comme une autre. Il faut surveiller le bon Dieu qui est là-haut et qui semble parfois ne pas se soumettre complètement à la constitution du 14 janvier. Le ciel est plein d'allusions désagréables et a besoin d'être bien tenu. La découverte d'une nouvelle tache au soleil constitue évidemment un cas de censure. La prédiction d'une haute marée peut être séditieuse. L'annonce d'une éclipse de lune peut être une trahison. Nous sommes un peu lune à l'Élysée. L'astronomie libre est presque aussi dangereuse que la presse libre. Sait-on ce qui se passe dans ces tête-à-tête nocturnes entre Arago et Jupiter? Si c'était M. Le Verrier, bien, mais un membre du gouvernement provisoire. Prenez garde, M. de Maupas, il faut que le bureau des longitudes jure de ne pas conspirer avec les astres, et surtout avec ces folles faiseuses de coups d'état célestes qu'on appelle les comètes. Et puis, nous l'avons dit déjà, on est fataliste quand on est Bonaparte. Le grand Napoléon avait une étoile. Le petit doit bien avoir une nébuleuse. Les astronomes sont certainement un peu astrologues. Prêtez serment, messieurs. Il va sans dire qu'Arago a refusé. Une des vertus du serment à Louis Bonaparte, c'est que selon qu'on le refuse ou qu'on l'accorde, ce serment vous ôte ou vous rend les talents, les mérites, les aptitudes. Vous êtes professeur de grec et de latin, prêtez serment, sinon on vous chasse de votre chaire. Vous ne savez plus le latin ni le grec. Vous êtes professeur de rhétorique, prêtez serment, autrement, tremblez. Le récit de Théramène et le songe d'Athalie vous sont interdits. Vous errerez alentour le reste de vos jours, sans pouvoir y rentrer jamais. Vous êtes professeur de philosophie, prêtez serment à M. Bonaparte. Sinon, vous devenez incapable de comprendre les mystères de la conscience humaine et de les expliquer aux jeunes gens. Vous êtes professeur de médecine, prêtez serment, sans quoi vous ne savez plus tâter le pouls à un fiévreux. Mais si les bons professeurs s'en vont, il n'y aura plus de bons élèves? En médecine particulièrement, ceci est grave. Que deviendront les malades? Qui, les malades? Il s'agit bien des malades. L'important est que la médecine prête serment à M. Bonaparte. D'ailleurs, où les 7 500 000 voix n'ont aucun sens? Où il est évident qu'il vaut mieux avoir la cuisse coupée par un âne assermenté que par un Dupuytren réfractaire. Ah, on veut en rire, mais tout ceci serre le cœur. Êtes-vous un jeune et rare et généreux esprit comme Deschanel, une ferme et droite intelligence comme Despois, une raison sérieuse et énergique comme Jacques, un éminent écrivain, un historien populaire comme Michelet? Prêtez serment ou mourrez de faim. Il refuse. Le silence et l'ombre où il rentre, stoïquement, savent le reste.